20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Ils répétaient depuis plusieurs semaines avant que l'annonce du confinement ne les prenne de court. Raphaël Pichon et toute l'équipe de la nouvelle production d'Hippolyte et Aricie de Rameau ont pu fort heureusement poursuivre leur travail à l'Opéra Comique. Faute de pouvoir être présentée au public, cette production sera en effet captée et filmée pour une diffusion samedi prochain sur Arte. Raphaël Pichon nous en dira justement quelques mots ce soir et puis il nous parlerait également de ce sublime enregistrement des motets de Bach qu'il vient de nous offrir chez Harmonia Mundi. Le temps de jeter un rapide coup d'œil sur les autres événements de l'actualité musicale. Une disparition, tout d'abord, celle du violoncelliste russe Alexander Bousloff, décédé brutalement ce dimanche d'une thrombose à l'âge de seulement 37 ans. Formé à Moscou par les plus grands violoncellistes russes, notamment Marina Tarasova, il avait entamé une brillante carrière de soliste après avoir remporté, entre autres, le prix de la Fondation Rostropovitch en 2007, ainsi qu'une médaille d'argent au prestigieux concours Tchaïkovski. Une âme gentille et aimante inégalable, nous avions tant de projets que nous attendions avec impatience et de savoir que nous ne les réaliserons pas et que nous ne ferons plus de musique ensemble est une douleur difficile à affronter, a écrit le violoniste Julian Racklin. Philippe Gau vous dresse le portrait d'Alexander Bousloff sur le site de Radio Classique. De nombreuses institutions se mobilisent pour maintenir une programmation musicale en ce mois de novembre, à huis clos et en streaming. C'est ainsi que l'Auditorium du Louvre diffusera en direct sur la chaîne YouTube du musée toute une série de concerts à midi et demi. Demain, un programme d'air de cour et de ballet du grand siècle par Sébastien Dossé et son ensemble Correspondance. Jeudi, un concert de la violoniste Francesca Dego et de la pianiste Francesca Leonardi autour de Stravinsky et de Respighi. Ou encore le 25 novembre, le concert de la loge de Julien Chauvin avec Sandrine Piau, réunis pour célébrer Vivaldi. Des concerts disponibles en écoute gratuite, en direct, mais aussi en différé. Même démarche pour l'Orchestre National du Capitole de Toulouse qui retransmettra deux concerts en live sur les réseaux sociaux de l'orchestre ainsi que sur la page Facebook de France 3 Occitanie. Premier rendez-vous samedi, ce samedi à 18h avec le chef Fabien Gabel et le pianiste Bertrand Chamaillou qui sera le soliste du deuxième concerto de Saint-Saëns.
Thank you.
Le final du deuxième concerto pour piano de Saint-Saëns par Bertrand Chamaillot, avec ici l'Orchestre National de France et Emmanuel Krivine. Bertrand Chamaillot qui jouera ce concerto samedi à la Hallograin de Toulouse avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse et Fabien Gabel. Un concert qui sera donné à huis clos, mais diffusé en direct à 18h sur les réseaux sociaux de l'Orchestre National du Capitole et sur la page Facebook de France 3 Occitanie.
L'Or Maison sur Radio Classique.
C'est avec Raphaël Pichon que nous allons passer un petit moment à présent. Raphaël Pichon que je suis allée rencontrer à l'Opéra Comique où il poursuit les répétitions d'une nouvelle production d'Hippolyte et Aricie de Rameau avec son ensemble Pygmalion. Une production sauvée par la captation puisqu'elle sera filmée et diffusée samedi soir sur Arte Concert. Un soulagement pour toute une équipe qui s'était tant investie dans ce spectacle depuis des semaines, comme le raconte Raphaël Pichon.
Avant d'être sauvée par les caméras et les micros, elle a été sauvée par la détermination et la foi un peu chevillée au corps de nos artistes, nos équipes techniques, et je dois aussi saluer vraiment l'Opéra Comique qui avait déjà anticipé. Vous savez, on est tous passés par évidemment des phases différentes, entre la crise elle-même et puis plus récemment le couvre-feu, et puis ensuite s'adapter, changer les horaires des représentations en espérant toujours jouer devant du public. Et puis ensuite est arrivé le confinement, et je dois avouer que c'est surtout la réactivité, la flexibilité, la détermination, l'envie de continuer à faire vivre les grands chefs-d'œuvre, de continuer à faire vivre ces maisons, à trouver d'autres façons de se produire et d'atteindre un public, de continuer aussi à entretenir un savoir-faire, de continuer aussi à pouvoir donner vie à des projets qui ont parfois été pensés 2 ou 3 ans à l'avance. Mais je crois aussi tout simplement à comprendre que cette continuité et ce besoin de culture qui s'était déjà exprimé de façon très vive et très forte par le public et par les artistes lors du premier confinement a permis, je crois, de réaliser au plus haut niveau du gouvernement cette nécessité absolue que malgré le confinement, l'activité culturelle repenser, certes, sans public, certes, devait continuer. Et je crois que ça aussi, ça a été grâce à un travail remarquable qui a été fait de toutes les structures du spectacle vivant, toutes les structures culturelles depuis des mois pour s'adapter. Et là, je pense aussi évidemment en termes de sécurité sanitaire. Nous sommes des professions extrêmement responsables. Il suffit de voir le protocole sanitaire ici. Et je crois, sauf erreur, l'absence de grands foyers ou de clusters dans des lieux culturels depuis quelques mois. Donc voilà, ce n'est pas une victoire, mais en tout cas, c'est malgré tout une force et une détermination et un combat qui permettront et qui participeront, je crois, fortement à la possibilité, à la sortie de cette crise que j'espère le plus tôt possible, une sorte un peu de rebond culturel, alors que le silence est terrible, le silence est très destructeur. We'll be right back.
Quelques notes de Rameau, quelques notes de l'ouverture de Castor et Pollux par Raphaël Pichon et son ensemble Pygmalion. Des musiciens qui répètent en ce moment Hippolyte et Aricie à l'Opéra Comique en redoublant de précautions. Un orchestre placé légèrement au-dessus de la fosse pour avoir plus d'espace afin de maintenir une distance entre les musiciens. Des doublures pour chaque chanteur et même une doublure pour le chef. Et puis des répétitions avec masque. Des conditions complexes, fragiles, mais nécessaires, comme nous l'explique Raphaël Pichon.
C'est un peu du funambulisme, hein. On est sur des lignes de crête. Il faut, je crois, faire preuve de grande prudence, d'un grand soin, de bon sens, sans tomber dans une psychose qui peut bien sûr faire naître une atmosphère de travail très néfaste, et sans tomber aussi dans l'innocence ou le déni de réalité. Donc c'est un jeu d'équilibriste. On a eu la chance, je vous dirais, d'apprendre malheureusement des mésaventures des uns et des autres depuis quelques mois. Et on a aussi, nous, appris au fur et à mesure, ça fait déjà cinq semaines qu'on est ici. Les choses se sont mises au point petit à petit, de nouveaux masques, de nouveaux tests, des tests plus rapides. Les tests rapides ont totalement changé et bouleversé notre quotidien en positif, sans mauvais jeu de mots. Aujourd'hui même, on est passé des tests rapides qui étaient, pour être très précis, nasopharyngés, qui posent des problèmes. Vous imaginez, pour un chanteur, de se prendre un petit bâtonnet qui est tout sauf agréable dans le nez, parfois plusieurs fois par semaine, et même le jour de spectacle, les jours de tournage, donc pour nous maintenant, tous les jours, ce n'est pas idéal. Et donc maintenant aussi, grâce aux nouvelles technologies qui permettent de passer par voie orale et par la gorge, c'est beaucoup moins invasif, beaucoup moins perturbant. Voilà, c'est vraiment un jeu de funambulisme, mais aujourd'hui, on peut aussi en être fier de tout ce protocole, puisque encore hier, la totalité de l'équipe technique, artistique, a été testée négative, même s'il me paraît un peu surréaliste de prononcer cette phrase.
Alors Hippolyte et Aricie, que vous dirigez ici dans cette production à l'Opéra Comique, c'est un ouvrage qui, j'imagine, vous tient à cœur. C'est l'un des premiers ouvrages lyriques que vous aviez dirigé en version de concert, il y a déjà 8 ou 9 ans, avec Pygmalion.
Voir Hippolyte en scène, c'est un rêve qui se réalise, un rêve mûri pendant quelques années, et notamment... Alors pour entrer sur un sujet un tout petit peu plus pointu, il se trouve que Jean-Philippe Rameau a retravaillé Hippolyte et Aricie tout au long de sa carrière pour en livrer différentes versions, trois grandes versions. Et cette ultime version, c'est celle que l'on présente, qui date de 1757, alors que la création avait lieu en 1733. Cette ultime version me paraît la plus déchirante, la plus bouleversante, la plus directe, la plus compacte. Il se trouve par exemple qu'elle est privée de prologue, enfin pas privée, mais que ce prologue, hein, qui est comme souvent dans les grandes tragédies lyriques, allégorique, et nous prépare à une sorte de mise en abîme de la tragédie qui va se jouer, ici est supprimé pour rentrer directement dans la narration. Hippolyte et Aricie est l'opéra le plus noir et le plus dramatique de Jean-Philippe Rameau, qui tisse le plus de liens avec à la fois la tragédie antique, mais aussi la grande tragédie française héritée de Racine. Et cette ultime version est elle aussi la plus tragique. Donc c'est vraiment l'opéra de Rameau qui nous permet de croire ici au théâtre, et non pas dans le divertissement ou l'émerveillement, ou le merveilleux tel qu'il était rêvé à cette époque-là, sous Louis XV, quand un grand nombre d'ouvrages de cette époque-là, même les grandes tragédies, sont des tragédies chahutées, heurtées, parce qu'elles sont remplies de moments de pause qui permettent de mettre en avant la discipline qui faisait tant rêver le public parisien de cette époque-là, la danse.
Alors la musique de Rameau, Hippolyte et Aricie, mais la tragédie lyrique de Rameau en général, est impressionnante, est expressive, aussi bien sur scène que dans la fosse. Qu'est-ce que ressent un chef d'orchestre, Raphaël Pichon, au bout des doigts lorsqu'il dirige cette musique de Rameau, et notamment à travers l'orchestre ?
Du feu, c'est de la musique incandescente, c'est fantastique. Moi je reste totalement fasciné. Il faut imaginer que Jean-Philippe Rameau était un vieillard. C'est un monsieur qui a écrit son premier opéra à 50 ans. À 50 ans, au XVIIIe siècle, on est déjà un vieillard. Et contre toute logique, Moi, il y a un seul exemple qui me vient, et encore, il est peut-être un tout petit peu différent parce qu'il s'était mieux préparé, enfin, il avait eu plus l'occasion de se préparer, c'est Monteverdi avec son Orfeo. Je veux dire, quel compositeur est capable de livrer pour un premier jet, un premier opéra, sans jamais avoir écrit d'ouvrage lyrique auparavant, un tel chef-d'œuvre. Un tel chef-d'œuvre. À tel point que, malheureusement, à mon sens, les réactions du public qui ont été globalement bonnes, mais qui ont aussi été très choquées par de nombreuses révolutions qui sont faites par Rameau dans cet ouvrage. Rameau, finalement, aussi a besoin d'écouter un tout petit peu les vœux du public et de répondre un peu à ses attentes. Et donc, les opéras qui vont succéder à Jean-Philippe Rameau sont musicalement parfois de très très haute volée, si on pense aux Indes galantes, à Dardanus, à Castor et Pollux, cet ultime chef-d'œuvre posthume que sont les Boréades, bien sûr. Mais dans un équilibre dramatique, théâtral, les révolutions sonores, la psychologie des personnages, l'orchestre qui devient, pour la première fois de l'histoire de la musique française, devient un personnage avec une orchestration fascinante, débordante, pour moi, Hippolyte Serre, ici, c'est le grand chef-d'œuvre.
Au lieu d'attendre embrassement, mon fils reçoit les vœux d'un trop coupable père. Puisqu'on met entre
Je ne te verrai plus, un air d'Hippolyte Arici de Rameau, chanté par Stéphane Degout avec Raphaël Pichon et l'ensemble Pygmalion. Stéphane Degout qui incarne Thésée dans cette nouvelle production d'Hippolyte Arici, dirigée par Raphaël Pichon, mise en scène par Jeanne Candel et avec également Reinhold van Mechelen, Elsa Benoît ou encore Sylvie Brunet. Production qui sera diffusée samedi à 20h en direct de l'Opéra Comique sur Arte Concert. Et cela tandis que vient de sortir chez Harmonia Mundi le nouvel enregistrement de Pygmalion, un sublime album saisissant d'émotion, dédié au motet de Jean-Sébastien Bach, des pages avec lesquelles Raphaël Pichon entretient des liens très forts, comme il me l'a confié.
Moi, il se trouve que j'ai une relation voilà, très, très affective, une relation très particulière avec ces motets, parce qu'ils sont, ils font vraiment partie des raisons, des déclencheurs de ma vocation de musicien professionnel. J'ai eu la chance de pouvoir les chanter depuis l'âge de 10 ans, à peu près. Je faisais partie d'une maîtrise à Versailles. Et on a très régulièrement, tout au long de mon adolescence, pu chanter ces motets. Donc, ils m'ont tout de suite saisi. J'ai pu aussi les apprivoiser, enfin, en tout cas, à sa manière, comme un adolescent qui apprivoise une musique et un répertoire. Mais donc, il y a toujours aussi cette sorte d'innocence, de relation très instinctive, presque un peu sauvage, presque un peu primaire, un peu primitive à cette musique. Mais en même temps aussi, toutes ces années de formation, ces années aussi à essayer de comprendre cette musique, à en découvrir la mécanique, l'horlogerie interne, à comprendre comment elle est possible d'une certaine façon. Et donc, ce qui a aussi beaucoup enrichi ma compréhension de cette musique. Et ensuite aussi un mûrissement très lent et très progressif avec Pygmalion, puisque ce sont des motets que nous-mêmes nous avons donnés régulièrement en concert depuis une dizaine d'années. Et je voulais voilà, que l'on prenne notre temps, mais comme je vous le disais, tout en conservant cette générosité, cette candeur, cet engagement cette volonté de saisir cette musique avec tout autant notre corps que notre âme. Et je crois que c'est ça qu'elle demande, parce que c'est une musique avant tout, c'est d'abord une expérience sonore tout autant qu'un message. Et il y a besoin, voilà, de combiner cette ardeur avec aussi cette rigueur.
Oui, parce que c'est une musique bouleversante, c'est une musique qui a des côtés assez simples, assez épurés, des passages d'une grande complexité, des fugues assez impressionnantes. C'est une musique qui représente un défi pour ceux qui l'interprètent, Raphaël Pichon.
Ah oui, c'est, je crois que je me disais comme ça dans le texte, un Everest. C'est l'un des plus grands marathons, un des plus grands challenges pour un ensemble vocal, d'ailleurs pour un chœur ou pour des solistes, parce que donc ils peuvent être, on peut décider de les interpréter de mille et une manières, mais pour quelques formations que ce soit, c'est un véritable marathon. Et particulièrement, évidemment, quand on réunit, certes de façon un peu factice, les six ensemble. Jamais Jean-Sébastien Bach n'avait eu l'intention de donner dans un même concert ces six motets. Ce ne sont pas un cycle, si vous voulez. Donc le rapprochement de ces six pièces, qui ont toutes, atteignent toutes des sommets un peu vertigineux de virtuosité, parfois de complexité. Et évidemment, le plus grand défi pour nous, c'est que cette complexité, j'oserais dire, ne s'entende pas. C'est de retrouver une sorte de naturel qui permette l'engagement, la générosité, la couleur, la vivacité, les contrastes, et puis surtout de faire apparaître le message, les messages que Jean-Sébastien Bach cherche avant tout à faire passer par cette musique, parce que c'est de la musique extrêmement prosélyte, il faut le dire.
Thank you.
Les deux premiers chœurs du motet « Jesu meine Freude » de Jean-Sébastien Bach par Raphaël Pichon et son ensemble Pygmalion, un extrait de ce merveilleux enregistrement sorti chez Harmonia Mundi. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de la violoncelliste Astrigue Cyranossian qui viendra nous parler de Nadia Boulanger, à qui elle rend hommage dans un bel album qui vient de paraître. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.